Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Demain, c'est la journée mondiale sans tabac. Il y a encore 1,3 milliard de fumeurs dans le monde, c'est-à-dire qu'une personne sur 6 fume quotidiennement. Le tabac cause 6 millions de décès par an dans le monde et ce chiffre est encore en constante augmentation. Si rien n'est fait, on estime qu'un milliard de personnes vont mourir à cause du tabac au cours du 21e siècle. Mais vous le savez, arrêter de fumer reste difficile. Nombreux sont ceux qui essaient, mais rechutent. L'arrivée de la cigarette électronique est probablement en train de changer la donne, car la baisse de volume des ventes de tabac constaté en France depuis un an correspond en fait à la croissance du nombre d'usagers des cigarettes électroniques. Il serait plus d'1,5 million de consommateurs de ces e-cigarettes en France. Malgré ce succès, l'OMS voudrait classer ces e-cigarettes de la même manière que les cigarettes de tabac lors de la 6e session de la conférence des parties qui se déroulera en octobre à Moscou. La conférence des parties, c'est l'organe directeur de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Et une lettre ouverte vient d'être adressée à Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, pour l'alerter sur cette question. On en parlera dans l'émission. Alors, comment arrêter de fumer? Que penser de cette cigarette électronique? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Bertrand Dotzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, président de l'Office français de prévention du tabagisme. Et il a récemment publié « L'e-cigarette pour en finir avec le tabac » chez XL Éditions. Et dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Kayambe, qui est chef du service de pneumologie aux cliniques universitaires de Kinshasa, en République démocratique du Congo, et aussi Jacques Lewezek, qui est conseiller en santé publique et dépendance tabagique.
RFI.
Professeur Bertrand Dotzenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé aujourd'hui. Marisol Touraine, ministre de la Santé en France, doit présenter le 17 juin sa loi anti-tabac. Le Figaro en révèle aujourd'hui quelques points. Paquet de cigarettes neutres, interdiction de la cigarette électronique dans les lieux publics, ouverture des actions de groupe aux fumeurs, c'est-à-dire les class action à l'américaine, renforcement de l'aide aussi au sevrage. Vous en pensez quoi, a priori, de ce projet de loi? De ce qu'on en connaît pour l'instant.
On est très content que ce plan national de réduction du tabagisme qui fait suite au troisième plan cancer soit un vrai plan de prévention du tabac. Le premier plan cancer avait bien marché, avait diminué de 1,8 million à 2 millions de nombre de fumeurs et surtout chez les enfants, par exemple, de Paris, on a vu 75% d'enfants qui fumaient de moins. Et là, le deuxième plan cancer a été tout à fait lamentable pour le tabac. Et là, on revient avec un plan pour les fumeurs contre le tabac, parce que les fumeurs, ils en ont marre du tabac et ils voudraient bien être débarrassés de ce produit qui est maintenant complètement ringard.
Une de vos grandes batailles, c'est l'augmentation régulière du prix du tabac. Là-dessus, l'Australie est un exemple intéressant. Sur les 4 années qui viennent, ils ont prévu d'augmenter de 12% tous les ans le prix du tabac.
Alors, pour la France, moi je suis pour une augmentation des taxes et des prix du tabac uniquement si la consommation ne baisse pas. Mais là, depuis un an, on a eu l'année dernière moins 7-6% de vente de cigarettes. Cette année, on est aux alentours de 8% de vente de cigarettes et de tabac roulé. Donc à partir du moment où on est environ 10% de baisse par an, il n'y a pas besoin d'augmenter les prix. Et même, je serais assez pour qu'on évite que les cigarettiers fassent des toutes petites augmentations qui ne font que les enrichir et qui n'ont aucun effet de santé publique, comme on l'a fait 6 fois de suite depuis 5 ans.
C'est ça, l'augmentation d'un intérêt que si elle est, entre guillemets, un peu brutale.
Elle est un peu brutale et elle est dirigée par les taxes et elle non pour la cigarettier pour s'enrichir. Donc c'est au ministre de la Santé de prendre la main, c'est pas au président des compagnies de tabac d'aller inviter à déjeuner le ministère du budget, parce que ça se passe en France comme dans d'autres pays, et ça, il faut que ça cesse. La convention cadre contre le tabac, justement, interdit ces pratiques.
On a encore 35% de fumeurs en France, hein, c'est le dernier chiffre mais qu'on a officiel. C'est 15% de fumeurs en Australie. Pourquoi on n'y arrive pas quand même mieux chez nous?
En France, on fait de temps en temps des choses très bien. La loi de 91, la loi E20 est très bonne. Ce qui s'est passé en premier plan cancer est très bon. Et puis après, on arrête. Donc on est en marge d'escalier, alors que d'autres pays ont des diminutions continues. Et si on veut avoir une diminution continue, il faut avoir une mesure continue du tabagisme. Vous dites qu'il y a 35% de fumeurs en France si on met les fumeurs réguliers occasionnels, mais ça, c'est des chiffres qui ont déjà 4-5 ans maintenant. On mesure les fumeurs tous les 5 ans, on mesure les morts du tabac tous les 15 ans. Ça peut plus durer. Si on veut faire une politique, il faut avoir régulièrement le nombre de fumeurs. Les Anglais, par exemple, qui ont des très beaux succès, ils ont tous les mois une indication de la baisse du nombre de fumeurs, comme on a en France tous les mois le nombre de morts sur la route. Et dès qu'il y a une augmentation du nombre de morts sur la route, on en parle, on prend des mesures et on corrige. Donc il faut une mesure pour pouvoir piloter cette baisse du tabagisme.
Les auditeurs sont très nombreux à appeler, ils ont beaucoup de questions à vous poser, ils sont nombreux à vouloir arrêter de fumer. On a Sababou qui nous appelle de Ségou au Mali. Sababou, bonjour.
Bonjour, Claire Edon.
On vous écoute.
Ça veut dire que depuis 2004, j'ai commencé à fumer.
Oui, on vous écoute, oui, on allez-y.
Depuis 2004, j'ai commencé à fumer. À plusieurs tentatives, j'ai essayé d'abandonner la cigarette, mais je n'arrive pas. Et là, c'est un problème que pourquoi c'est-il difficile d'abandonner la cigarette?
Et là, vous avez de nouveau essayé d'arrêter, là, récemment?
Oui, j'ai essayé d'arrêter plusieurs fois. J'ai fait 10 mois, 3 mois, 4 mois, mais jusqu'à présent, je n'arrive pas.
Et là, aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans une phase où vous avez arrêté ou vous avez repris?
Aujourd'hui, j'ai arrêté depuis le 15 février 2014.
Ah, c'est bien! Mars, avril, mai, ça fait plus de 3 mois que vous avez arrêté. Professeur Dotzenberg, j'imagine que c'est ce que vous entendez souvent.
C'est toujours la même chose. Quand on commence à fumer, et surtout si on commence à fumer jeune, on atteint d'une maladie qui s'appelle la dépendance tabagique, qui ne guérit jamais. Donc quand on s'arrête de fumer, on ne sera pas un non-fumeur, on sera un ex-fumeur, et on aura toujours, toute sa vie, envie de reprendre. Donc la meilleure chose à faire, c'est de ne pas commencer. Comme ça, on n'est pas embêté toute sa vie avec le tabac qui vous ruine la santé, qui vous ruine l'argent, qui vous ruine la santé, qui vous ruine
votre portefeuille.
Votre portefeuille.
Et si vous parlez de dépendance, ça veut dire que la cigarette peut être un peu considérée comme une drogue ?
Sur le milliard et demi de fumeurs, il y a plus d'un milliard qui sont des drogués à la nicotine, qui ont besoin de leur drogue tous les jours. Chaque fumeur ne fume pas par plaisir. La plupart des cigarettes sont fumées parce que c'est devenu obligatoire. S'ils n'ont pas leur drogue, ils sont en manque et ils deviennent de mauvaise humeur et tout va mal.
Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Sababou pour tenir le coup?
À partir du moment où on n'a pas refumé depuis 3-4 mois, on est en rémission de son tabagisme et qu'il faut surtout, c'est pas prendre la prochaine. Et donc, à chaque fois qu'il est dans une situation où il pourrait avoir envie de fumer, il faut y penser avant. Hein, je vais à tel endroit, je vais à telle fête, là je vais vraiment avoir envie de fumer. Mais juste en rentrant à la fête, on se dit, je vais pas prendre ma cigarette, c'est ce qu'on appelle des thérapies cognitives et comportementales. Je mets au niveau de ma conscience, de ma connaissance, la crainte de prendre du tabac dans cette réunion, et c'est beaucoup plus facile. Et ne plus jamais en toucher une, c'est plus facile que si on en a pris une, de pas en prendre 2, 3, 4 et 5.
Merci beaucoup en tout cas, Sababou, et bon courage à vous. Vous nous tenez au courant si vous arrivez à tenir le coup. On a Aboubacar qui nous appelle du Congo Brazzaville. Aboubacar, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. On vous écoute, Aboubacar. Vous êtes en direct dans Priorité Santé.
Oui, mon souci est que je fume la cigarette depuis en 2004, comme j'ai noté dans mon témoignage. À un moment donné, j'ai réussi à arrêter, je crois autour de 2009, j'ai passé 2 ans sans fumer la cigarette. Autour de 2011, je suis revenu fumeur, j'ai commencé à fumer, mais là, ça devient pénible pour moi parce que j'ai essayé tout, j'ai même essayé la cigarette électronique, mais par contre, ça n'a rien changé, quoi. Je dors tous les jours avec la décision ferme d'arrêter la cigarette, mais une fois que je me réveille, il faut que je fume, quoi. Donc, ça devient un peu beaucoup pénible, ça devient un peu pénible pour moi. Ma question était, je voulais savoir s'il y a des méthodes, pour essayer d'arrêter la cigarette,
Aboubacar, vous dites en tout cas quelque chose de très intéressant, c'est que vous vous couchez tous les soirs en vous disant « demain, j'arrête de fumer ». Et ça, c'est ce que pensent beaucoup de fumeurs. Ils auraient envie d'arrêter, professeur Dotzenberg.
Quand on interroge 1000 fumeurs dans la rue, il y en a 800 qui disent « je voudrais bien être non-fumeur, je suis malade de la nicotine ». Et les 200 autres, si on leur propose la baguette magique ou le médicament miracle, un peu comme demande Bacar, ils le veulent tout de suite. Le rêve de tout fumeur, c'est d'être non-fumeur. Donc quand un politique prend des mesures contre le tabac, il prend des mesures pour les fumeurs. Ce qui se passe en France, c'est des mesures pour le fumeur, contre le tabac. Le fumeur, il en a marre du tabac, il peut plus en avoir. Le problème, c'est quand on est très dépendant, on a très envie. Donc, il y a une phase un peu difficile où il faut passer de l'état de fumeur à non-fumeur. Et là, si on a des médicaments disponibles ou de la nicotine par une autre façon, c'est une bonne chose. Si on n'a rien, il faut se prendre la décision et s'arrêter. Et une fois qu'on a arrêté pendant une semaine, la deuxième semaine, c'est un peu plus facile. La troisième semaine, un peu plus facile. Et après, ne plus jamais, jamais en prendre une. Si on a arrêté de fumer pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, et si on reprend une cigarette quand on était dépendant, on retombe tout de
on
suite dans
de
la
rechuter.
Dépendance.
Beaucoup se plaignent de la prise de poids à l'arrêt du tabac. C'est ce que nous a laissé aussi Aboubacar dans son témoignage.
Alors, la prise de poids existe surtout si on n'arrête pas aider. Alors, en France, on a des consultations de tabacologie, on a des médicaments qui aident et l'arrêt peut se faire plutôt dans la souplesse, malheureusement. Je ne sais pas ce qui est disponible
au Congo-Brazza,
mais s'il n'y a pas de traitement, c'est ce qu'on faisait aussi en France il y a 25 ans, on n'avait pas de médicaments et on aidait les gens à arrêter de fumer quand même.
Et les gens aussi parlent beaucoup de la cigarette du après le repas, qui est le moment. Vous avez un petit truc à donner pour qu'est-ce qu'on fait pour éviter cette envie de cigarette juste après le repas?
La cigarette, il y a les cigarettes qui sont prises après le café, après le repas, dans certaines situations obligatoires. Ça, c'est des choses qui disparaissent. Hein. C'est-à-dire, si on arrête de la prendre, il suffit de se lever à la fin de le repas et d'aller faire autre chose, d'aller marcher 100 mètres à la fin du repas. Et ça, c'est des choses qui disparaissent toujours. En revanche, l'envie de cigarette, la dépendance à la nicotine, ça va persister à vie, et ça, on peut seulement endormir cette dépendance, on peut pas la guérir.
Quels sont, vous avez parlé de médicaments pour essayer d'arrêter, quels sont-ils? Alors évidemment, la nicotine.
Les médicaments, les meilleurs, c'est les patchs et les comprimés, ou les médicaments de prescription.
Dans lequel il y a de la nicotine, en fait.
Il y a de la varenicline ou des médicaments qui racontent des bêtises aux récepteurs de la nicotine en leur faisant croire qu'il y a de la nicotine. Ces médicaments, s'ils sont disponibles, marchent quand ils sont donnés à bonne dose. Le problème, c'est que les gens ont souvent peur des médicaments et pas peur du tabac. C'est-à-dire qu'en France,
c'est un paradoxe.
Il y a beaucoup de gens qui prennent le paquet de cigarettes avec marqué le tabac tue, ils n'ont pas peur. Et le médicament pour arrêter de fumer qui pourrait donner un petit bouton, ils ont très très peur.
Et le médicament est efficace, vous trouvez?
Les médicaments doublent ou triplent les chances de succès et surtout permettent d'arrêter plus cool. Quand on arrête sans médicament, il y a une phase où on est un peu énervé, il y a une phase où on a tendance à manger beaucoup et à grossir si on fait pas attention, donc c'est un peu plus difficile. Les médicaments augmentent le taux de succès, mais surtout font arrêter de façon plus douce.
Merci beaucoup Aboubacar pour votre question. On va parler maintenant de la cigarette électronique.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on essaie de voir comment arrêter de fumer avec le professeur Bertrand Dotzenberg. On a au téléphone Jacques Lewezek, qui est conseiller en santé publique et en dépendance tabagique. L'OMS, je l'ai dit en début d'émission, l'Organisation mondiale de la santé voudrait classer les e-cigarettes de la même manière que les cigarettes de tabac. Une lettre ouverte vient d'être adressée à Margaret Chan, la directrice de l'OMS, pour lui demander de revenir sur cette intention. Jacques Lewezek, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes signataire de cette lettre. Pourquoi cette lettre ouverte à Margaret Chan?
Cette lettre ouverte, tout simplement parce que depuis de nombreuses années, l'OMS a, grâce entre autres à la création de la convention cadre, a pris en main de façon importante l'arrêt du tabac, mais a totalement négligé une stratégie qui nous paraît essentiel, qui est la réduction du risque. Il y a un grand nombre de fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer, même avec les traitements existants, et on vient de le voir avec les témoignages, et qui ont besoin de nicotine. Or, il existe des produits qui ne sont pas fumés, des produits à base de nicotine, dont la cigarette électronique, qui pourraient jouer un très grand rôle dans la réduction du risque des maladies, puisqu'il faut le rappeler une fois de plus, ce n'est pas la nicotine qui cause les maladies du tabac, c'est le fait d'inhaler de la fumée. Donc, donner de la nicotine sous une autre forme, comme on le fait aussi avec les substituts nicotiniques, est un moyen de contrôler le tabagisme et de faire en sorte qu'un plus grand nombre de gens puissent au moins arrêter de fumer, arrêter d'inhaler de la fumée dans leur poumon.
Et quelle est votre crainte si on classe ces cigarettes électroniques de la même manière que les cigarettes de tabac?
Ben, tout simplement, on envoie un mauvais message et c'est ce qu'on a fait depuis plus de 30 ans. On a souvent associé les campagnes anti-tabac au mot nicotine, alors que c'est pas elle qui est responsable. Elle est responsable en partie de la dépendance, mais pas des maladies. Et donc, on a besoin d'utiliser ces autres stratégies et on l'observe déjà avec les études qu'on a, les enquêtes qui ont été faites par l'OFDT en France, par H en Angleterre, où on voit que, par exemple, la cigarette électronique a déjà un impact sur la consommation de tabac. Et probablement sur la prévalence. Mais comme l'a rappelé Bertrand Dotzenberg tout à l'heure, on aimerait bien avoir des données un peu plus fréquentes en France sur la prévalence du tabagisme.
Professeur Dotzenberg, vous connaissez hein, Jacques Le Wézec. Pourquoi vous n'êtes pas signataire de cette lettre à Margaret Chan?
Là, c'est une démarche complètement militante. Moi, je me mets avec. Enfin, je pense qu'il faut. On va dans le même sens que la lettre, mais il faut que chacun reste dans son rôle. Moi, je suis un professeur et sérieux, et il y a des choses qui sont avec lesquelles je ne suis pas à 100% d'accord dans ce qui est dit. Donc, pour.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, par exemple, qu'il faut absolument pas classer ces cigarettes électroniques comme les cigarettes de tabac?
J'ai rencontré les gens de l'OMS Europe la semaine dernière. Pour eux, il n'en est pas question. Et la directive européenne sur les produits du tabac a été publiée. Clairement, il va y avoir en France, et je pense que Marie de Soltoren va l'annoncer le 17 juin, pour la première fois dans la loi française, une nouvelle classe de produits qui va s'appeler cigarette électronique. Donc c'est ce qui sera ni un médicament, ni un produit du tabac, mais quelque chose qui est autonome. Et avec la directive européenne telle qu'elle est, je vois pas comment l'OMS va classer la cigarette électronique comme un produit du tabac. En plus, classer comme un produit tabac un produit où il n'y a pas de tabac me semble quand même difficile. Après, on peut dire ce qu'on veut. Mais il y a, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'experts qui connaissent pas bien la cigarette électronique. Et en gros, au niveau même européen ou mondial, plus les experts sont dans les bureaux, loin des patients, plus ils pensent que c'est un produit dangereux qu'il faut interdire. Plus les experts sont près des patients et près des consommateurs, plus ils pensent le contraire. Comme il n'y a pas de données scientifiques qui disent « comme on ne sait pas, il ne faut pas décider », là on est dans une tempête, le tabac va tuer en France 200 personnes aujourd'hui. Vous le rappeliez, il y a 6 millions de morts dans le monde, on est dans la guerre contre le tabac, et il faut naviguer, c'est clairement la bonne voie. Alors est-ce qu'il faut aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, j'en sais rien, mais aller... Pour laisser libre la cigarette électronique, il faut qu'elle soit beaucoup plus libre que le tabac, en tout cas. Le tabac, c'est un produit.
Donc là-dessus, vous êtes assez d'accord quand même avec Jacques Le Wézec.
Il faut totalement ringardiser le tabac
d'accord.
Et laisser la place à la cigarette
Jacques
électronique.
Jacques Le Wézec, j'ai encore une question à vous poser. Oui, vous vouliez réagir, peut-être. Je vous laisse réagir d'abord.
Je voulais réagir parce que j'en ai marre d'entendre qu'il n'y a pas de données scientifiques. C'est justement pour ça que on a fait cette lettre. Et c'est malheureusement, on a vu avec le rapport du Haut Conseil de la Santé publique, qui n'est d'ailleurs toujours pas accessible, que les conclusions de ce rapport sont complètement obsolètes.
Alors, il ne sait pas tout. Je vous interromps. Ce Haut Conseil de la Santé publique a rendu un avis un mercredi. Il dit quand même que la cigarette électronique est considérée comme un outil de réduction des risques du tabagisme. Donc, il va dans le même sens que vous là-dessus. Simplement, peur d'un risque de renormalisation du tabagisme et, entre autres, que l'e-cigarette pourrait favoriser l'entrée des jeunes dans le tabagisme.
Oui, mais ça, on n'a aucune donnée scientifique qui le démontre, et au contraire, on en a qui vont dans le bon sens. C'est entre autres ce qu'a montré la récente étude de Paris sans tabac que Bertrand Dotzenberg a faite, et c'est aussi confirmé par une enquête de H en Angleterre, qui montre que le tabagisme recule chez les jeunes et que très peu d'entre eux utilisent la e-cigarette régulièrement, sauf ceux qui sont déjà fumeurs ou ex-fumeurs. Et c'est exactement ce qu'on observe chez les adultes. Et d'ailleurs, H souligne qu'on observe la même chose aux USA, malgré tout ce qui a été dit, et en particulier dans la presse. L'enquête du CDC d'Atlanta montre aussi que le tabagisme recule chez les jeunes et que, malheureusement, les auteurs eux-mêmes de ce rapport ont mal interprété, ont fait une très mauvaise interprétation des données et mettent en avant agitent ce foulard.
Vous les trouvez trop frileux sur cette cigarette électronique. Je vais vous redonner la parole à tous les deux. Hein. Jacques Le Wézec, vous restez en ligne. Bertrand Dotzenberg, on se retrouve dans 3 minutes juste après les informations. On continuera à parler de cette cigarette électronique juste après les infos.